Daniel Bugli.
Bonjour à chacun, chacune. Donc, je crois qu'on fait une visite officielle annuelle, alors voilà, c'est aujourd'hui. Donc, je vais me présenter puis raconter un peu ce qu'on fait dans la vie au travers de la prédication, le thème que j'ai trouvé aujourd'hui. En fait, il n'y a rien de nouveau. C'est comme Jean qui dit dans son épître à Jean, il n'y a rien de nouveau, mais quand même c'est nouveau. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est, vous l'avez entendu et réentendu, mais quand même j'espère, comme les Africains savent bien prêcher, toujours ils tournent autour du sujet. J'espère qu'en tournant autour de ce sujet, il y aura quelques petites nouveautés pour vous et quelques encouragements et quelques défis. Donc, le sujet, c'est à l'école de l'amour. C'est vraiment pas nouveau, vous en serez d'accord. Je vais baser mon intervention sur 1 Jean 4, 7, 21. Donc, notre famille, voilà, nos enfants ont un petit peu grandi. Et donc, on s'était mis sur notre 31 pour un heureux événement qui s'est passé au mois de juillet dans notre famille. Donc, peut-être ça a suscité ce sujet de l'amour parce que, Alex, il s'est marié ce jour-là. Et puis, par rapport au sujet de la prédication, j'ai trouvé chouette cette photo parce que, à droite, il est porté par Jonathan, un de ses bons copains. Donc, ce qu'il est aujourd'hui, Alex, c'est parce qu'il a eu des copains aussi. Et puis, à gauche, par son frère Raphaël. Et ce qu'il est aujourd'hui, l'amour qu'il a aujourd'hui à donner à son épouse, c'est aussi à cause de sa fratrie. Et les choses se sont construites et Alex, comme chacun de nous, a été en fait à l'école de la vie et à l'école de l'amour. Ça, c'est à la commune de Clermont-de-Sousse, un petit village près de Agen, dans le sud-ouest de la France. Et donc, il y a Alicia, notre belle-fille, et Alex, vous les verrez de face après. Mais ce que je voulais montrer par cette dia, c'est que finalement, l'amour, ça conduit à quelque chose qui peut être très sérieux, comme le mariage. Et puis là, vous voyez, il y a Marianne, qui est l'emblème de la République. Il y a le drapeau français, il y a le drapeau européen. L'assistant du maire a mis sa banderole là. Et puis donc, il y a eu un engagement devant 4 témoins, devant plein de public. Et puis, ils ont dû signer leur acte de mariage en 7 exemplaires. Donc, ce que je veux souligner par là, c'est que il y a un choix de s'engager en amour. Il y a une décision, il y a des projets. Et puis, l'amour, c'est quelque chose de relationnel et c'est quelque chose aussi d'opérationnel. Et ça, comme je tourne autour du sujet de l'amour, j'aimerais souligner ça. C'est que l'amour, il est relationnel, il est opérationnel aussi. Ce qu'on fait ensemble renforce notre amour et notre amour renforce ce que l'on fait ensemble. Alors, Jeanne-Marie, au bras d'Alex, donc elle a amené son fils, en fait, elle l'a confié à une autre femme, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais voilà, et puis au travers de cette dia, on peut voir le rôle de la maman. C'est quand même une relation qui est très très fusionnelle au départ, avec la maman qui porte son bébé, qui le nourrit et tout. Et puis au fil des années, cette relation d'amour, elle a évolué pour jusque là. Donc on ne se comportait plus avec Alex, il a 20 ans, 22. Aujourd'hui, comme quand il avait 4 ou 5 ans. Donc aussi dans nos relations d'amour, c'est important de savoir où on en est, comment on se positionne dans cette relation, comment on agit envers l'autre. Dans quelques nouvelles de Jeanne-Marie, donc elle est physiothérapeute, elle travaille dans une institution pour jeunes enfants handicapés. Je ne sais pas comment elle fait pour travailler depuis des années dans ce domaine, mais elle aime ça et elle aime ses enfants particuliers. Et puis, à partir de l'année passée, elle est impliquée dans des associations de quartier. Et donc là, elle donne des leçons de sport avec des femmes nord-africaines surtout, donc tous les lundis. Après son travail, elle traverse Strasbourg sur son vélo. Et puis, elle passe 1 à 2 heures avec des femmes qui sont toutes contentes de bouger. Et c'est l'occasion de faire des connaissances et d'entrer dans le réseau nord-africain sur Strasbourg. Et puis, à la rentrée, elle va travailler probablement avec une autre association pour faire des cours d'alphabétisation. Donc, on a toujours à cœur de travailler avec les nord-africains. On a vécu au Maroc pendant 10 années. Et puis, on a toujours à cœur. Et puis, des fois, il y a des choses qui se passent, des fois moins. Mais on a toujours ça à cœur. Alors Alex, voilà, vous voyez notre belle-fille de face. Donc comme il se doit, ils ont commandé un méchoui couscous. Et voilà, et donc on est content qu'ils puissent partager les mêmes plats. On est encouragé par ce mariage en tout cas. Et Raphaël, la dua suivante. Donc suite au mariage, comme on était dans la région, on allait dans les Pyrénées. Et puis nous, on aime marcher sur les sentiers. Et Raphaël, il aime sortir des sentiers et marcher de part et d'autre des rivières. Et puis, j'ai choisi cette dia pour vous présenter Raphaël, comme quoi à 20 ans, il est toujours heureux de sauter, mais aussi par comment il s'y prend en fait. Il est très responsable dans ce qu'il fait, il a fait de la gym au sol, il a fait du parcours pour ceux qui connaissent, et il se fait quasiment jamais mal. Et pourtant, il fait des sauts assez impressionnants. Mais en fait, il marchait au bord des ruisseaux. Il repérait des endroits où il pouvait faire quelque chose de bien. Il choisissait, il évalue les risques, il accepte le défi. Vous voyez le parallèle avec l'amour là? Il évalue les risques, il accepte le défi, il se lance, il plane, il se réceptionne, il gagne en assurance pour le prochain saut, il apprend, il construit. Et puis, il y en a d'autres qui essayent et puis ils ont un peu moins de réussite, donc ils tombent dans l'eau. Ils peuvent se faire mal. L'important, c'est de se sécher, et puis c'est de se soigner, et puis c'est de se reposer. Et tout ça, je pense que dans nos relations, si on veut mettre l'amour, on peut bien voir le parallèle. Joël, on n'a que 3 enfants, après je m'arrête avec les nouvelles familiales. Donc, lui, il a commencé de piloter des petits avions, puis ça a été une longue histoire, en fait, et je trouve super chouette. Il a montré beaucoup de détermination patiente pour enfin pouvoir piloter un avion en vrai. Donc il y a 3 ans, avec un cousin, il a fait quelques essais avec l'avion du cousin. Et puis il a eu envie de s'acheter une télécommande. Donc il a acheté la télécommande, il a piloté des avions virtuels sur un ordinateur. Et c'est seulement 1 année, 2 ans après qu'il a eu assez de moyens. On lui a dit, c'est ton projet, tu te débrouilles. Parce qu'on voit aussi qu'ils se construisent à ce niveau-là. Et donc, il s'est acheté cet avion, puis là, c'était un des premiers vols. Mais c'était super pour nous, en tant que parents, de voir le gamin qui insiste, qui a une envie, et puis qu'on l'a aussi encouragé dans ce qu'il faisait. Mais de voir que, il peut avoir des projets. Et puis, moi, comme papa, j'ai pu aussi faire des choses sympas avec mon fils, en bricolant l'avion, puis en préparant les choses, en l'assistant pour les vols et tout ça. Donc, c'est lui le spécialiste dans l'histoire, c'est pas moi. Mais c'était intéressant aussi pour moi d'être dans une position de soutien. Et puis, il y a des choses intéressantes qui se sont passées entre nous. Pour ma part, donc moi, je travaille avec des missions puis des organisations chrétiennes dans le domaine de l'aide au développement. Donc, vous connaissez probablement CTS, parce que vous recevez régulièrement des nouvelles. Donc, on a un projet d'introduction de soins palliatifs en Mauritanie. Et puis d'ailleurs, il y aura une conférence à Blonay par un médecin qui a visité le projet le 28 octobre à Blonay. Vous avez des pliants derrière et puis vous pouvez en prendre, vous servir. Et puis, depuis le 1er janvier, je suis chargé de programme pour la mission évangélique au Tchad. Il y a aussi des papillons. Et donc là, en fait, je vais remplacer le secrétaire général actuel et c'est un poste à 40%. Donc, on a la mission évangélique au Tchad à 2 partenaires au Tchad, ce sont des églises qui représentent à peu près 400 000 membres. Et puis, ils ont des projets, des dispensaires, des écoles, des internats, des centres de santé, des écoles professionnelles et 50 de missionnaires autochtones. Donc, mon rôle, c'est depuis la Suisse de faire le suivi de ce qui se passe là-bas, puisqu'ils sont, ces églises-là sont soutenues depuis la Suisse. Et sinon, j'ai toujours part d'un comité en Tunisie et je suis toujours consultant en aide au développement pour une organisation missionnaire international. Alors, on va lire la parole dans 1 Jean 4, 7, 21. Ce sujet, il m'a été un peu imposé par le Seigneur, parce que juste après le mariage, on a invité des amis, et puis c'est des gens, je sais, avec qui je m'entends très bien, mais je sais que je dois me mettre dans une certaine disposition pour être bien avec eux. Avec certaines personnes, ça se passe tout seul, puis avec d'autres, il faut un peu se préparer à rencontrer les personnes. Et on a fait des choses ensemble, on s'entend très bien et tout, mais je dois toujours me rappeler, tiens, ils sont comme ça, et moi, puisqu'ils sont comme ça, je dois, pour être en bénédiction avec eux, je dois m'y préparer, et puis avoir un peu cette attitude. Et là, on était un peu sur les nuages avec le mariage, et puis tout d'un coup, ils étaient là, puis je me suis dit, mais ces gens, ils sont... Et vraiment, j'ai eu du ressentiment, mais idiot, quoi. Mais c'était émotionnel, c'était stupide. Et après ça, j'étais vraiment honteux de moi, parce qu'ils méritent pas ça, parce que c'est des gens bien, et puis je me suis dit bon, mais il faut pas que je laisse passer ça, c'est pas quelque chose de, et donc j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je vais lire pendant mes vacances dans la Bible, puis il m'a dit lis 1 Jean, donc pendant 10 jours j'ai lu 1 Jean, j'ai lu, voilà. Donc je vais vous partager un peu ce que j'ai appris là-dedans, mais des fois le Seigneur il nous reprend vraiment parce que on manque franchement d'amour, et là c'était Je ne vais pas dire à ma femme comment j'étais, je demandais à ma femme qu'elle vous dise comment j'étais, mais j'étais vraiment mal. Alors, Jean 1, 4, 7, 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. On va se limiter là dans la lecture, on lira un peu plus après. Mais peut-être que si Jean avait été si Jean avait vécu aujourd'hui, il aurait peut-être été programmateur informatique. Parce qu'autant dans l'évangile que dans ses épîtres, il est assez noir et blanc. Vous savez, les 1 et les 0. Car Dieu a tant aimé le monde, alors, donc il pose une vérité, puis bzoup, il passe à une déduction. Et dans 1 Jean, on le lit souvent, puisque alors, puisque Dieu est amour, alors le chrétien aime. Si alors, si on n'aime pas, alors on ne connaît pas Dieu. Si donc, si Dieu nous a tant aimés, donc nous devons nous aimer les uns les autres. C'est comme cause à effet. Et en tout cas, à mon niveau, j'avais besoin de me rappeler que c'est noir et blanc, que parfois il y a du compromis, mais dans notre relation d'amour avec... l'amour, c'est oui, non, c'est... Donc c'est du black and white, c'est du sans compromis, c'est du sans excuse, c'est du sans discussion. Vous êtes de Dieu, vous aimez. Dieu est amour, vous aimez. Point. Les anciens qui disent, vous savez, les anciens, des fois, ils sont un peu ennuyants et puis ils disent, c'est comme ça. Et on discute plus, quoi. Et en terre africaine, c'est encore plus fort. La tradition, les anciens, ils disent, c'est comme ça. Et il n'y a plus à discuter. Donc j'ai lu un peu cet épître en me disant, c'est comme ça. Et puis, c'est moi qui me suis adapté à la parole de Dieu, un peu, là. Ou bien les Suisses allemands, ils disent Punktschluss, point final. Voilà, paf, c'est comme ça, c'est carré, on n'en discute pas. Et mon lieutenant à l'année, il disait, Ich ist klar, c'est clair. Puis alors, pour pas le vexer, il fallait dire, oui, c'est clair. Voilà. Donc voilà, ma réponse devant ces passages, elle était longue et difficile, parce que, voilà. Donc c'est pas une option, mais c'est un ordre, c'est un état de fait, c'est une loi. On aime puisqu'on est d'un Dieu qui aime. Donc on est dans une position où Dieu nous a mis, où on doit aimer. Est-ce que Jean a été parfait dans son amour sur la terre? Donc on peut lire ce qu'il a écrit et lire ce que d'autres disciples ont lu par rapport à lui. Et on voit que, eh ben non, même si Jean, il a écrit l'évangile qu'il a écrit, les épîtres qu'il a écrit, l'Apocalypse, qui sont des livres très spirituels, très tournés sur l'amour, on peut voir que Jean, dans sa vie, il n'a pas été toujours parfait. Donc peut-être qu'il a écrit ce qu'il a écrit à la fin de sa vie, puis là, il était devenu un vieux sage et tout, mais en tout cas, il n'avait pas démarré comme un gentil petit gars toujours. Donc on dit de Jean, dans la tradition biblique, que c'était le disciple bien-aimé. Donc il était proche de Jésus. Il a connu Jésus d'une manière très, très, très intime. On pense qu'il était cousin de Jésus, donc il était le frère cadet de Jacques, l'autre disciple. Et donc, Jésus, avec ses 12 disciples, il avait deux frérots. Je sais pas si vous êtes déjà été dans des groupes que vous dirigez avec une fratrie. Des fois, c'est bien, mais des fois, c'est ses frères, ils se mettent ensemble et puis c'est dur à gérer. Eh ben, Jésus, il avait deux frères et puis il les a surnommés les gentils petits frères. Ben non, il les a surnommés les fils du tonnerre. Donc c'était pas des petits gentils, ils avaient le sang chaud, quoi. Dans Marc 9, 38, il est rapporté que Jean, il était assez intolérant. Jean raconte qu'il a empêché un homme de chasser les démons car il n'était pas avec leur groupe à eux. Et c'est juste au sein d'un texte où Jésus invite les disciples à accueillir les petits-enfants et il leur dit, si vous accueillez les petits-enfants, c'est en fait moi-même que vous accueillez. Et là, Jean, tac, il refuse, il est exclusif dans sa relation. Dans le comité de la Met, il y a un monsieur qui a passé la retraite depuis longtemps, qui était missionnaire au Tchad, et il a une douceur et une tendresse qui, je me suis dit, mais c'est impossible d'être doux et tendre de cette manière-là. Et puis, il doit avoir un secret. Donc, une partie du secret, c'est une fois, il est venu avec sa femme. Et sa femme, elle a Alzheimer. Et il montrait une tendresse et une, c'est incroyable, quoi. Et c'est quelqu'un qu'on aime bien prendre quand on va sur des stands pour, on était à Missionnet, par exemple, en Allemagne, entre Noël et Nouvel An. Et c'est quelqu'un qui attire les jeunes, et les jeunes, ils aiment entendre ces histoires, et c'est quelqu'un de paisible, qui calme, qui encourage dans l'appel missionnaire, et qui a vraiment une attitude incroyable. Et donc, de le voir comme ça, pratiquement sa relation avec sa femme qui est vraiment perdue, quoi. Tout d'un coup, elle se lève, elle part, donc voilà, il se lève aussi, voilà. Il va la chercher. Et de voir cette relation, c'était, l'amour qu'il a là, il a dû l'apprendre, quoi. Donc, à l'école de l'amour, c'est le sujet d'aujourd'hui. Il a aussi appris l'amour d'une autre manière, enfin, plusieurs manières. Je vous raconterai ça après. Dans Luc 9, 54, on retourne à Jean. C'est Jacques et Jean, les frères, donc, qui viennent vers Jésus et ils lui demandent, est-ce que tu veux que nous disions au feu de descendre du ciel et les consumer? Carrément, quoi. Il veut les cramer. Il veut les passer au lance-flammes. Donc, vous voyez un peu le cœur de, je sais pas si vous avez déjà envie de cramer d'autres personnes, pas physiquement, mais franchement, quand il y a quelqu'un qui vous, donc, on est tous, voilà. En tout cas, moi. Vous, je sais pas, mais moi. Est-ce qu'on doit agir avec la puissance de la terreur divine? Dieu nous appelle à bénir, normalement, mais bon. Marc 10, 35, il demande, les deux frères là, est-ce qu'on pourrait pas être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire? Donc, ils veulent que ce soit une affaire de famille, hein, Jésus, les deux cousins à côté, et puis voilà. Donc, ils sont un peu ambitieux et présomptueux surtout. Donc, on dit de l'évangile de Jean que c'est un des livres les plus profonds et les plus spirituels. Et c'est là aussi qu'on apprend beaucoup au sujet de la Trinité, la relation entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, Jean, il a une compréhension spirituelle assez incroyable, même que, en tout cas, une partie de sa vie, bon, par le fait qu'il était cousin, Jean, il a aussi dû apprendre à voir Jésus pas comme son cousin de chair, mais comme Jésus, Dieu, le Fils de Dieu. Et certainement qu'il a dû aussi faire un processus, et c'est peut-être aussi pourquoi qu'il est arrivé à expliquer mieux que d'autres, justement, la Trinité et tout ça, parce qu'il a dû lui-même apprendre à se positionner par rapport à ce Jésus, le Fils de Dieu. Il a dû découvrir la vraie nature de ce cousin. Et puis, une de ses conclusions, en tout cas, c'est que c'est l'amour. Et donc, nous aussi, on doit un peu se battre avec la personne de Jésus, lire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a enseigné. Et puis, aussi, on grandit, quoi, dans notre connaissance, dans notre relation. Et c'est pas forcément quelque chose qui se construit du jour au lendemain. Dans Jean 19, 26, on voit que Jésus confie sa maman à Jean. Ah, Jean, Jésus est célibataire, il sait qu'il va bientôt mourir, et il le confie à quelqu'un de confiance. Et puis, la révélation de l'Apocalypse a été donnée à Jean aussi. Donc, c'est pas à n'importe qui qu'on confie la prédiction d'un futur. C'est quelqu'un en qui on a confiance. C'est quelqu'un qui est fort, qui saura garder le message, qui va le comprendre. Et qui a une attitude aussi qui est juste. Dans la parole, on peut voir que Jésus, il a souvent apprécié ceux et celles qui ont démontré un amour débordant. Je pense à Marie, la sœur de Marthe, qui a vidé le parfum sur Jésus, un parfum d'un coup qui était d'une année de salaire d'un ouvrier, comme reconnaissance, comme pour rendre honneur à Jésus. Et Jésus l'a souligné. On peut penser aussi à la femme pécheresse qui lave les pieds de Jésus avec ses larmes, et qu'il les essuie avec ses cheveux. On peut voir cette relation fusionnelle. Jésus, il n'a pas repoussé cette femme, mais il a accepté, il l'a souligné. On peut penser à Zachée aussi, ce petit homme collecteur d'impôts, certainement voleur, un peu détestable aux yeux de la population, qui a fait un immense festin en l'honneur de Jésus. Et là, on voit aussi que Jésus, il a accepté ce festin, et qu'il a honoré Zachée de sa présence. Pour rester de Jésus, c'est une affaire de relation, et c'est une affaire opérationnelle aussi. Jésus, il veut entretenir relation avec nous, il veut qu'on fasse des choses avec lui. Donc il y a un côté opérationnel, comme je soulignais. Et ce côté opérationnel, c'est de faire sa volonté. Il est notre ami, il est le Seigneur aussi. Au niveau de la mission évangélique au Tchad, on travaille avec des partenaires européens en France et en Allemagne. Donc il y a 5 partenaires qui sont entre ces 3 pays, donc France, Allemagne et Suisse. Et c'était pas toujours... Ça n'a pas toujours été évident de collaborer ensemble. Les Allemands sont un peu différents des Français, les Français un peu différents des Suisses, et on a dû décider vraiment de vouloir travailler ensemble et de mettre un cadre à ce travail, de mettre un cadre à ce travail ensemble. Et je pense que c'est pareil dans le mariage. Parfois, il faut qu'on recadre un peu notre relation avec Jeanne-Marie. Il n'y a pas de gros problème, mais il faut que vis-à-vis de l'éducation des enfants, vis-à-vis du budget, vis-à-vis de... Et certainement, c'est la même chose dans un groupe de l'Église ou même dans l'Église. Il faut que Dieu, il aime l'Église, il veut une relation avec l'Église. Dieu, il veut aussi que l'Église se mette en route et fasse des choses pour le royaume de Dieu. Donc avec ces partenaires, on vient en appui à des églises qui sont assez matures au Tchad. Et puis donc notre objectif, c'est d'offrir des services pour le bien de tous. On travaille au travers des églises, on soutient les églises au niveau formation biblique, au niveau croissance de l'église. On les aide aussi puisque les services publics ne sont pas toujours au top là-bas. L'église a un rôle à jouer dans ces pays-là et ça peut se faire au travers des églises. Et c'est un soutien et c'est un signe de l'amour de Dieu et c'est un signe que l'église veut effectivement être une bénédiction pour la population. Souvent, quand il y a un pasteur qui va dans une nouvelle région où il n'y a pas encore d'église, souvent c'est dans des ethnies qu'il connaît pas, dont il ne vient pas. Souvent, c'est des endroits où les locaux, ils n'ont pas forcément envie de voir venir un pasteur parce qu'il amène l'évangile avec lui, puis ils sont pas chrétiens. Et on a remarqué que ça se passe beaucoup mieux si la personne, elle arrive avec quelque chose. Il fait dans l'éducation, dans la santé, dans quelque chose. Et c'est beaucoup mieux accepté. Ça lui donne aussi une porte d'entrée pour témoigner, pas seulement par les mots, mais pour témoigner aussi par les actes, pour démontrer qui est Dieu. Il n'y a pas que l'amour, mais il y a l'espoir, il y a plein de choses qu'on peut modeler au travers de qui on est, ce qu'on fait. Et donc, une des choses que fait la MED, c'est des écoles communautaires. Donc, vous, les enfants qui... Ah non, ils ne sont plus là, zut. Mais enfin, vous, parents qui envoyez vos enfants à l'école, voilà les enfants, les parents tchadiens, certains envoient leurs enfants dans ce style d'école. Donc, ce que vous avez vu là, vous avez remarqué les infrastructures, l'équipement. Donc, le jour du film, tous les enfants sont habillés, mais parfois, ils arrivent en culotte et puis avec ce qu'ils portent normalement durant la semaine. Et donc, c'est un défi d'installer une école dans ce village-là, parce que c'est un village semi-nomade. Et les parents ne sont pas forcément intéressés trop à voir leurs enfants qui sont éduqués. Et il y a des oppositions, parce qu'il y a un peu Boko Haram qui est aussi présent dans la région, pas en tant que structure, mais en tout cas leurs idées. Donc tout ce qui vient de l'Occident, c'est pas bon. Donc l'éducation, c'est quelque chose qui est pas forcément bonne, vu par la population, ou une certaine partie de la population. Il y a un Allemand qui travaille dans cette région-là. C'est lui qui suit un peu ce genre de projet. Et c'est intéressant parce que lui, il est charpentier et il est infirmier. Et donc, la MET a des projets de formation en charpenterie, des projets des centres de santé. Et puis, lui, il a décidé que, non, il allait orienter son, son ministère, son travail sur des ethnies nouvelles. Donc il utilise ses connaissances professionnelles, mais il est surtout orienté vers une minorité. Si vous connaissez le Tchad, il y a plein de langues, il y a plein d'ethnies, il y a plein de... Et donc il s'est orienté sciemment vers une minorité pour démontrer l'amour de Dieu dans cette minorité-là. Et donc ça lui a valu un peu les foudres de l'Église au Tchad, parce que comme il passe son temps avec cette ethnie minoritaire, il passe plus de temps avec l'Église qui représente l'ethnie majoritaire, et puis aussi avec les autorités locales qui sont de l'ethnie majoritaire et qui comprennent pas que un blanc qui vient de l'extérieur travaille pour ces gens-là, parce qu'ils sont un petit peu maîtrisés. Donc notre ami allemand là, il s'est mis dans une position qui est un petit peu désagréable parfois. Donc maintenant l'église locale tchadienne le suit, enfin ils travaillent bien ensemble, donc le pasteur tchadien qui connaît la langue de ce peuple semi-nomade, ils travaillent bien ensemble et leur travail est bien complémentaire. Mais on peut aussi être amené, même ici à la Chaux-de-Fonds peut-être, à choisir à travailler avec des groupes de personnes qui sont peut-être des minorités, qui sont peut-être des gens qui ont besoin de découvrir l'amour de Dieu parce que ils n'y ont pas forcément accès. L'école de l'amour, parfois les conditions extérieures sont bien, on se sent, enfin bien, agréable, on se sent porté, soutenu. Il y a des personnes aimables, hein. Aimables, c'est facile à aimer, des gens aimables, et aimantes, et parfois c'est un petit peu le désert. Et puis on a des difficultés à aimer, et puis on devient un peu sec. Et pour ça, c'est important d'être dans une communauté qui est aimante pour pouvoir ne pas perdre cette vue de l'amour de Dieu, quoi. On était donc dans les Pyrénées après le mariage, et puis on était au pied du col du Tourmalet. Donc souvent le Tour de France passe par ce col. C'est 18 km de montée, 1500 mètres de dénivelé, à une moyenne de 7,7% pour les cyclistes qui aiment les détails. Mais enfin, c'est vraiment long. Et donc, on a un peu observé les cyclistes qui montaient. Alors, il y avait les entraînés, puis les mal entraînés. Et il y avait les légers et les en surpoids. Donc, il y a ceux qui ont le bidon sur le vélo, puis d'autres qui ont le bidon sur le vélo, mais qui ont aussi un petit bidon par là. Et on se disait, on les voyait démarrer, on se disait, ah, mais comment ils vont arriver en haut, ceux-là? Parce que vraiment, ils sont... Et puis, il y a les dépendants et les indépendants. Les dépendants, c'est ceux, vous savez, il y a une petite voiture qui les suit, là, qui les ravitaille en cours de route, il y a le service technique qui est disponible et tout. Et puis, ben, il y a ceux qui montent avec les sacs à dos, puis certainement, ils vont camper au col ou bien de l'autre côté. Et puis, finalement, je me suis dit, qui c'est qui est le plus performant dans le cours, dans le col? Ben, c'est les dépendants. Et c'est bien dans notre vie chrétienne de pas être indépendant, mais d'être dépendant, d'avoir une équipe autour qui nous soutient. Et puis d'être léger, ça veut dire ne pas s'embarrasser de trucs qui ne servent à rien. Et puis peut-être de maigrir sur certains domaines si c'est nécessaire. Et puis les entraîner. Encore une fois, l'école de l'amour, c'est un entraînement. Donc dépendant, léger, entraîné. Et voilà. Et des fois, on a besoin de montrer un amour incroyable simplement à cause des circonstances. Je pense à une église au Tchad, dans la région du lac Tchad, donc c'est à la frontière du Cameroun où il y a Boko Haram, justement. Et puis, il y a eu deux îles, deux petites îles, où ces îles, elles ont quelques milliers d'habitants dessus seulement. Et il y a deux églises d'une de ces îles qui ont été... Il y a eu quelques morts, et il y a eu surtout les églises qui ont été rasées, brûlées. Et puis, il y a une peur qui s'est installée dans la population. Ils ont fui sur une autre ville qui était dans une zone un peu plus en sécurité. Et une église de 50 personnes a accueilli 500 personnes pendant plusieurs mois. Et quand vous connaissez les conditions de vie au Tchad, vous dites, mais comment 50 personnes a pu soutenir 500? C'est tout à fait incroyable. Et puis, les uns et les autres sont mobilisés, ils ont partagé. Ils ont défendu les réfugiés contre la population parce que pas tout le monde là-bas n'était d'accord de les accueillir. Et ils ont fait un gros travail, quoi. Dans 1 Jean 4, 9, 10, on lit, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc là encore, on lit, c'est pas notre, C'est pas grâce à nous, quoi. C'est grâce à l'action de Dieu envers nous. Et ce qu'on donne comme amour, c'est simplement ce que Dieu nous donne comme amour et ce que on peut donner comme amour en retour. Au verset 19, quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dans la coopération au développement, on se calque un peu sur, parfois sur ce que disent les institutions internationales, parce que on travaille avec la coopération suisse, et donc on doit un peu adopter le même langage. Et il y a des bonnes choses qui se disent, en fait. Parfois, on voit les autorités comme une opposition à ce que voudrait faire l'Église et tout, mais on peut aussi voir tout ce qui est positif dans ce qui est fait. Par exemple, les objectifs du développement durable 2016 à 2030, c'est des orientations pour la coopération au développement. Je vais vous lire quelques-unes de ces orientations et puis vous jugerez si c'est en direction de ce que la Bible dit ou bien si c'est complètement contraire. Alors, un, c'est pas de pauvreté. En tant que chrétien, on peut pas forcément être contre la coopération. La faim zéro, la bonne santé et le bien-être, l'éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, de l'eau propre et assainissement, donc les évacuations, de l'énergie propre à un coût abordable, un travail décent et une croissance économique durable, des inégalités réduites, des villes et communautés durables. J'ai lu ça il y a quelques mois. Après, je suis allé dans une conférence d'un réseau chrétien international de développement communautaire. Et puis, il parlait de projets qu'il faisait en Thaïlande, dans des bidonvilles. Et puis, ils avaient fixer une vision de ce qu'ils voulaient pour ce quartier, pour être une bénédiction pour ce quartier, puis c'était en plein ça. Je rentre à Strasbourg, on reçoit un courrier de la ville de Strasbourg avec le développement qu'ils veulent pour la ville dans les prochaines années. C'était exactement ce discours-là aussi. Donc on peut aussi, je pense, piquer des choses que les autorités disent, des intentions, et nous, en tant qu'Église, participer à ces intentions. Peut-être qu'il y a des solutions que l'Église est apte à donner, et d'entrer dans cette danse, en fait, pour nous, c'est au niveau de la MET, au niveau du développement, ça nous permet d'être en relation avec d'autres organisations qui font du développement, et aussi de devenir un témoignage pour la population suisse en général, pour ces autres organisations qui sont dans ce domaine-là. Et donc, au lieu d'être exclusif, au lieu de se retirer, au lieu de peut-être de critiquer, de se mettre en arrière, on essaye plutôt de voir quels sont les ponts. C'est ce qu'on fait en mission, finalement. Vous arrivez dans un endroit, Dieu n'est pas connu, et puis vous trouvez des moyens pour démontrer l'amour de Dieu, qui est Dieu, son espoir et tout. Donc, ville et communauté durable. Et ben, je pense qu'une partie, pourquoi Jeanne-Marie, elle est dans ces assos, moi je fais partie d'une autre assos, c'est parce qu'on veut être une bénédiction pour la ville. Et puis, expressément, on a choisi des assos qui sont un peu comme connectés avec des églises, mais qui surtout sont vraiment au sein du quartier, quoi, parce que c'est là que l'évangile a besoin d'être vu, modelé et prêché. Et après, il y a encore dans cette liste, il y a paix, justice, institutions efficaces, donc pas de corruption, et donc voilà. Donc on peut vraiment utiliser ces choses-là pour entrer dans la danse. Une chose que j'aimerais aussi rappeler. Si vous trouvez que notre rôle en tant qu'Européens vis-à-vis des pays en voie de développement, c'est aussi de partager nos ressources. Alors, au niveau étatique, politique, c'est fait comme c'est fait. Mais en tant que croyant, je pense qu'on doit être interpellé à cause de ça. Je vais juste vous donner trois chiffres. Donc, en Suisse, par habitant, on dépense 8 888 € pour la santé, donc la santé en général, 8 888, si on prend la somme totale divisée par le nombre d'habitants suisses. En France, c'est 4 444, c'est à peu près la moitié. Avec le change, c'est à peu près juste. Et puis, en Mauritanie, donc où on a ce projet de soins palliatifs, vous pensez c'est combien? Donc 8 888, 4 444, et en Mauritanie? Et non, c'est 44 € par année par habitant. Donc, enfin, nous, en tant que famille, puisqu'on a un peu les pieds dans le sud et puis dans le nord, on en est bien conscient. Et il y a une partie de nos revenus qu'on met pour, on reçoit des allocations familiales. En tout cas, la dîme de ça, on l'envoie dans des projets en bénédiction pour les familles ailleurs, quoi. Parce qu'on trouve que que voilà. J'étais super encouragé par un de nos fils. Il y avait un dimanche qui réunit toutes les églises évangéliques de Strasbourg, donc ça fait plus de 1000 personnes. On était dans une grande salle. Et après, il y avait le village des organisations évangéliques. Donc il y avait une vingtaine d'organisations qui se présentaient sur un parking. Et puis, il y avait, comme d'habitude, offert la bière, les baguettes et les knacks, dont des saucisses alsaciennes. Et donc, il y en avait à profusion. Et après, tout d'un coup, il y a mes fils qui viennent vers moi et disent « Papa, on aimerait aller au McDo. Est-ce que tu peux m'aider ?» Enfin, c'est le plus jeune, parce que lui, on est un peu radin avec l'argent de poche, donc il a le droit de nous demander ce genre de choses. Et puis, j'ai dit « Mais attends, mais il y a des knacks, il y a tout qui est sur place. Pourquoi vous voulez aller au McDo ?» Il me dit « Non, mais il y a mes frères qui vont. » Donc, ouais, d'accord, ben vas-y. Et puis, j'étais un petit peu révolté, quoi. Je me suis dit « Mais c'est pas une manière d'utiliser bien ses revenus ou ses... » Et puis là, dans mon cœur, j'ai prié, c'était une prière, « Seigneur, mais qu'ils comprennent, quoi !» Et puis, à peu près une semaine après, il y a un de nos fils qui est venu et a dit « Ah ouais, demain, pour dimanche, je vais me faire un sandwich. Je vais pas aller manger au resto avec mes copains. »« Ah bon ?»« Ouais, parce que il y a le service d'entraide des liaisons, le SEL, qui fait des parrainages comme compassion en Suisse. Et puis, j'aimerais parrainer un enfant. Et ça me fait me faire à peu près 30 euros par mois. Et c'est à peu près ce que je dépense avec mes repas le dimanche matin quand je sors avec... Je me dis, waouh ! Alors ça, j'étais presque un peu fier. Mais bon, il y a des organisations qui sont... Mon travail, c'est d'assurer que ce qui est aussi ça, c'est d'assurer ce qui est envoyé depuis l'Europe, ça arrive bien en Afrique et que ça soit bien utilisé. Donc il y a des gens qui me payent pour faire ça. Et je pense qu'il y a des organisations chrétiennes qui font un très bon travail et qui sont sérieuses, quoi. Donc, certainement que vous êtes très sollicité. Il faut juste choisir quoi. Et puis, je pense que l'amour, ça se manifeste aussi dans un budget. D'ailleurs, on remercie l'Église d'être dans le budget de l'Église. Merci pour ce soutien qu'on reçoit depuis des années et des années. On est conditionné par rapport à ce qu'on a vécu. Et vous savez que l'amour parfait n'a pas de crainte. On le lit dans 1 Jean 4 aussi. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Et on peut voir, pour avoir fréquenté des différents groupes chrétiens dans différents contextes, on peut voir que quand il y a de la méfiance, c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile d'aimer en fait. Alors que quand il y a la confiance, quand il y a le partage, c'est beaucoup plus facile et je pense que les groupes sont beaucoup plus efficaces aussi. Et suivant où on travaille, on a travaillé en Afrique du Nord et on a vu que c'était pas évident de construire avec l'Église parce qu'il y avait justement cette méfiance à cause de la sécurité, à cause de parfois de jalousie et c'était difficile de construire parce que par manque d'amour, quoi. Cet amour qui doit être éclairé, mais qui doit être en même temps quelque chose où la fluidité des relations est possible, où on a le droit de faire l'erreur, où on a le droit d'être, qu'on nous dise, là, t'as bien fait, puis là, c'était un peu moins bien. Et puis en France, vous savez que c'est un peu chaud maintenant avec les attentats et tout. Et vous promenez en ville, vous voyez cette tension. Il y a des flics, il y a des militaires un peu partout. Et en tant que citoyen là-bas, on se dit, ah tiens, il faut qu'on prenne position aussi. Comment notre amour, est-ce qu'on va se cacher chez nous, on va refuser de sortir, et peut-être dans nos relations avec certains, c'est aussi ça, quoi. On se protège, mais finalement, en se protégeant, on casse notre relation. J'ai eu une discussion pendant le mariage avec un gars, on s'est super bien entendu, et à la fin, il m'a dit ce qu'il faisait au niveau professionnel, il est dans la magie et des choses comme ça. Enfin, aussi, pas que, mais... Et ça m'a... Vous savez, vraiment, on était comme ça, ouvert, on échangeait. Et juste de savoir ce qu'il fait, en fait, je dis, mais j'ai pas envie que tu aies une carrière professionnelle qui réussisse. J'ai envie qu'on te stoppe, là. Et donc, il y a des fois où, à cause de qui sont les gens, soit ils nous rappellent quelqu'un, soit ils appartiennent à une ethnie, enfin, il y a plein de bonnes raisons, parfois, pour pas vraiment aimer. Mais Dieu, il aime, donc voilà, on aime. Point. Donc ma conclusion, je vais lire 1 Jean 4, 20, 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Alors que le Seigneur nous encourage, moi avec vous, dans cette position d'aimer les autres. Encore une fois, ce n'est pas discutable. On est là, appelé à aimer. Amen.